Bienvenue à tous pour notre deep dive de la semaine. On va se plonger ensemble dans le numéro du 24 novembre d'EcoBusiness.
Ah oui.
Vous êtes prêts à décortiquer l'actualité économique marocaine?
Carrément, j'ai hâte.
Parfait. Alors on va commencer fort, hein, avec un sujet qui met en lumière les difficultés qu'a l'industrie automobile européenne en ce moment.
Oui, Mercedes et Ford annoncent des résultats en baisse et même des suppressions d'emplois.
Ah oui, c'est vrai.
Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette crise pourrait paradoxalement donner des opportunités au Maroc?
C'est une question très intéressante et l'article d'EcoBusiness met en avant plusieurs facteurs qui expliquent cette crise en Europe. On peut parler du Covid,
oui,
la guerre en Ukraine,
bien sûr,
l'inflation et puis surtout l'arrivée de nouveaux concurrents, notamment chinois, sur le marché des voitures électriques. Donc, on voit que le modèle économique de l'automobile européenne est en train de changer. Et puis, il y a aussi l'évolution des mentalités, surtout chez les jeunes. La voiture n'est plus forcément un symbole de réussite sociale.
Exactement.
Et on voit de plus en plus d'alternatives, comme les transports en commun ou le vélo.
Oui, tout à fait.
Est-ce que le Maroc, avec son industrie automobile déjà bien implantée, pourrait en profiter?
Absolument. Le Maroc a déjà une capacité de production importante avec les usines Renault et Stellantis.
Oui.
Et le plan d'accélération industrielle a permis de développer un écosystème complet. Imaginez le Maroc devenir un hub pour la production de voitures électriques alimentées par des énergies renouvelables.
Oui.
On pourrait parler d'un véritable rebond économique.
C'est une vision ambitieuse, mais quels sont les défis à relever pour que le Maroc puisse vraiment saisir cette opportunité?
Il y a plusieurs points à prendre en compte. On peut parler d'investissements massifs dans les énergies renouvelables,
oui,
de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, surtout d'un transfert de technologies qui profite réellement au Maroc.
Il ne s'agit pas simplement de délocaliser la production, mais de créer une industrie durable et innovante.
Tout à fait. Parlons maintenant d'un sujet qui nous touche tout, l'inflation.
Oui.
Bonne nouvelle, elle a chuté à 0,7% au Maroc.
C'est quand?
On pourrait se réjouir. Mais l'article d'EcoBusiness évoque le concept de blanchiment des prix. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
C'est une expression qui illustre bien la situation actuelle. L'inflation ralentit, mais les prix restent très élevés par rapport à la période avant la crise. Imaginez, vous repeignez un mur qui a des fissures.
Oui.
La peinture fraîche masque le problème, mais les fissures sont toujours là. C'est la même chose avec le blanchiment des prix, l'inflation baisse, mais le pouvoir d'achat des consommateurs ne s'améliore pas vraiment.
Donc même si l'inflation baisse, on ne ressent pas forcément le changement dans notre quotidien.
Pas forcément, non.
Prenons l'exemple du prix de la viande. Il a peut-être augmenté de 0,7% sur massif, mais il est déjà beaucoup plus cher qu'il y a quelques années.
Oui, c'est ça. Au final, est-ce qu'on est vraiment gagnant?
C'est une question pertinente. Maîtriser l'inflation est une chose, mais il faut aussi s'assurer que cette baisse se traduise par une amélioration concrète du pouvoir d'achat. Il faut que les prix des produits de base, comme les produits alimentaires, retrouvent un niveau plus raisonnable.
On passe maintenant à un sujet crucial, la réforme de l'AMO, assurance maladie obligatoire.
Oui.
Le Maroc a pour objectif d'atteindre une couverture santé universelle avec 22 millions de personnes supplémentaires qui bénéficieront de l'AMO. C'est un projet ambitieux.
Oui, très ambitieux.
Mais est-ce que la réalité est aussi simple?
Le rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, met en lumière les progrès et les limites de la réforme.
D'accord.
L'objectif est louable, mais il reste des défis à relever.
Oui.
Des millions de personnes ne sont toujours pas couvertes.
Mmh.
Il existe des inégalités de financement entre les différents régimes d'assurance maladie.
Oui.
Et l'accès aux soins reste difficile, surtout pour les populations les plus vulnérables.
On voit que l'accès à des soins de qualité pour tous les Marocains est un défi de taille.
Oui, clairement.
Selon vous, quelles sont les priorités pour créer un système de santé plus juste et plus efficace?
À mon avis, il est crucial de s'attaquer aux inégalités d'accès aux soins, notamment en investissant dans les infrastructures sanitaires dans les régions les plus défavorisées.
Oui.
Il faut également garantir un financement équitable entre les différents régimes d'assurance maladie et veiller à ce que les plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte.
Ce sont des points essentiels. La route vers une couverture santé universelle est encore longue. Mais il est encourageant de voir que le débat est ouvert et que des solutions sont explorées.
Tout à fait.
Et maintenant, on va s'intéresser à un sujet un peu plus léger, mais tout aussi fascinant, le lien entre la Coupe du Monde et l'image du Maroc.
Oui.
Est-ce qu'une réussite sportive peut avoir un impact sur l'économie et la perception d'un pays?
C'est une question intéressante. EcoBusiness met en avant les travaux d'Anas Bari, un professeur à l'Institut courant des sciences mathématiques qui a étudié l'impact du parcours exceptionnel du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022. Et les résultats sont assez étonnants.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que cette étude a révélé?
Eh bien, l'étude a montré qu'il y a eu une augmentation considérable du sentiment positif envers le Maroc pendant la Coupe du Monde. On parle d'une hausse de 150%.
Ah oui, quand même.
Et ce n'est pas toutes les recherches en ligne sur des sujets non sportifs liés au Maroc, comme la cuisine. La culture, le tourisme ont explosé avec une augmentation de 400%.
C'est incroyable. On imagine que cet engouement a pu influencer la décision de la FIFA d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc.
C'est fort probable. C'est une belle illustration de la puissance du sport pour façonner l'image d'un pays à l'échelle mondiale. Et ça nous amène à nous interroger quels autres événements ou phénomènes culturels pourraient avoir un impact similaire sur la perception du Maroc.
C'est une question fascinante en parlant d'image, de perception. EcoBusiness s'intéresse aussi au rapprochement entre le système de santé marocain et le système américain, avec la nomination de Robert F. Kennedy Jr., connu pour ses positions controversées sur les vaccins comme ministre de la Santé aux États-Unis. Ça soulève des questions. Est-ce que le Maroc a intérêt à s'inspirer du système américain malgré ses complexités et ses coûts élevés?
C'est un sujet délicat. L'article d'EcoBusiness explore les deux côtés de la médaille. D'un côté, le système américain est très avancé en termes de recherche de technologies de médecine de pointe, mais de l'autre côté, il est très inégalitaire et laisse beaucoup de personnes sans accès à des soins de qualité.
Donc, il ne s'agit pas de copier-coller le modèle américain, mais plutôt d'identifier les bonnes pratiques qui pourraient être adaptées au contexte marocain.
Exactement. Le Maroc pourrait bénéficier d'un transfert de compétences dans des domaines comme la recherche médicale, la gestion hospitalière, la formation des professionnels de santé.
Mais il faut le faire avec prudence et en tenant compte des spécificités du système marocain.
Il est aussi important de prendre en compte les aspects éthiques, surtout avec les positions controversées de Robert F. Kennedy Jr. sur la vaccination. Le Maroc doit se positionner clairement sur ce sujet en s'appuyant sur des données scientifiques solides.
Absolument, la santé est un domaine sensible et il faut veiller à ce que les décisions prises soient basées sur des preuves scientifiques et non sur des opinions personnelles ou des idéologies.
On passe maintenant à un autre sujet clé pour l'économie marocaine, la dette publique alliée ou menace EcoBusiness. Analyse la situation.
L'article souligne que le niveau d'endettement du Maroc est actuellement soutenable, mais qu'il faut rester vigilant. La dette peut être un outil de développement si elle est utilisée pour financer des investissements productifs, comme les infrastructures, l'éducation, la santé.
Mais elle peut aussi devenir un fardeau si elle est mal gérée. Et si les charges d'intérêt deviennent trop lourdes de porter, quels sont les risques à prendre en compte?
Il faut tenir compte des facteurs externes, comme les fluctuations des taux d'intérêt ou les crises économiques mondiales qui peuvent impacter le coût de la dette. Il faut aussi anticiper les risques liés au changement climatique, comme la sécheresse, qui peuvent affecter la croissance économique et aggraver le déficit budgétaire.
Donc une gestion prudente et responsable de la dette publique est essentielle pour garantir la stabilité économique du Maroc à long terme. En parlant de stabilité économique, EcoBusiness met aussi en avant le rôle de la diplomatie économique marocaine pour attirer les investissements étrangers, notamment chinois. On parle beaucoup du Maroc comme hub stratégique pour l'Afrique, qu'en pensez-vous?
Le Maroc a su tisser des liens solides avec la Chine, qui est devenue un partenaire économique majeur. Les investissements chinois contribuent au développement des infrastructures, des énergies renouvelables, de l'industrie automobile.
On peut parler d'une relation gagnant-gagnant. La Chine accède au marché africain via le Maroc, et le Maroc bénéficie des investissements et du savoir-faire chinois.
Exactement. Et le Maroc a l'ambition d'aller plus loin en devenant une plateforme pour le transfert de technologies chinoises vers l'Afrique, notamment dans des domaines comme les villes intelligentes et les technologies vertes.
C'est un projet ambitieux qui pourrait transformer le paysage économique du continent. On passe maintenant à un secteur qui est cher au cœur des Marocains. Le tourisme à Krafaïda vient d'être nommé à la tête de l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, un nouveau visage pour relancer le secteur après la crise.
C'est un choix qui suscite beaucoup d'attentes. Krafaïda a une solide expérience en marketing et en stratégie acquise chez Coca-Cola et Centrale. Danone, il a le profil idéal pour dynamiser le secteur et attirer de nouveaux touristes.
Son principal défi sera de faire rayonner le Maroc à l'international et d'atteindre les objectifs ambitieux de la Vision 2030, qui vise 26 millions de touristes. Comment y parvenir?
Il faut miser sur la diversification de l'offre touristique, en mettant en avant les atouts du Maroc, la diversité des paysages, la richesse de la culture, l'hospitalité de la population. Il faut aussi développer une stratégie marketing efficace pour toucher de nouveaux marchés et s'adapter aux nouvelles tendances du tourisme.
Et n'oublions pas la gastronomie marocaine qui est un véritable atout.
Bien sûr, la cuisine marocaine est un ambassadeur du Maroc. À part entière, elle fait partie intégrante de l'expérience touristique et contribue à l'image positive du pays.
On termine notre deep dive avec une réflexion sur le rôle du HCP, le Haut Commissariat au Plan, dans le développement du Maroc. Un article propose une vision assez originale. J'ai un plan pour le plan. Plan de quoi s'agit-il?
L'article souligne l'importance d'une planification stratégique pour accompagner la mise en œuvre du nouveau modèle de développement du Maroc. Il ne s'agit pas de revenir au plan quinquennaux d'antan, mais plutôt de définir une vision claire pour l'avenir et de mobiliser les forces vives du pays pour atteindre les objectifs fixés.
Concrètement, comment mettre en place un plan pour le plan ?
L'auteur de l'article propose de s'inspirer de l'expérience de la Corée du Sud, qui a connu un développement économique remarquable grâce à une planification rigoureuse et une forte mobilisation de sa population. Il s'agit de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes et de mettre en place les moyens pour les atteindre.
Il faut impliquer tous les acteurs de la société, l'État, les entreprises, les collectivités locales, la société civile. C'est un véritable projet de société qui nécessite une forte adhésion à la population.
Tout à fait, on a vraiment exploré un large éventail de sujets aujourd'hui, de la crise automobile à la dette publique, en passant par le tourisme et le rôle du HCP.
C'est vrai, on a décortiqué ensemble les sujets clés de ce numéro d'EcoBusiness. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette édition ?
Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le Maroc se positionne à la fois comme un acteur régional fort en Afrique et comme un partenaire économique de plus en plus important sur la scène internationale. Que ce soit dans l'industrie automobile, les énergies renouvelables ou la diplomatie économique, le Maroc prend des initiatives audacieuses.
Oui, et on voit aussi que les défis sont nombreux. L'inflation, l'accès aux soins, la gestion de la dette publique.
Oui.
Mais ce qui ressort de cette lecture d'EcoBusiness, c'est que le Maroc a les atouts pour les relever.
Tout à fait. Le Maroc a un potentiel énorme, une jeunesse dynamique, une position géographique stratégique et une volonté de s'ouvrir au monde. Les prochaines années seront décisives pour la concrétisation de ce potentiel.
EcoBusiness nous offre une vision éclairante des enjeux économiques et sociaux du Maroc. J'espère que cette plongée en profondeur vous a donné envie d'en savoir plus.
Moi aussi, et surtout j'espère que cela vous encourage à vous impliquer dans le débat public et à contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour le Maroc.
Merci de nous avoir suivis dans ce Deep Dive. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration des sujets qui font l'actualité à la prochaine Deep Time.